C'est maintenant le moment de essayer de comprendre un peu. C'est le 26 avril dernier du côté de Radio-Canada et son site web qu'ont peut-être sursauté certaines personnes en voyant le texte et surtout certaines citations qui disaient que, bon, selon certaines personnes, une personne aveugle qui n'apprend pas le braille, on peut la considérer comme un analphabète et tout et tout. Alors, ben, cette semaine, on voulait justement regarder à quel point c'est difficile sans braille, à quel point c'est possible. Et pour en parler, tiens, commençons, soyons polis, Christine Rousseau, qui est en Estrie, elle qui est animatrice pour Ami Télé, qui est également avocate en droit de la personne. Salutations, Christine.
Bonjour, Luc.
David Demers, lui, est en studio, nouveau gestionnaire principal d'INCA Québec. Et je mets David et Christine ensemble parce que ni l'un ni l'autre utilisent le braille dans leur quotidien. Salutations, David.
Bonjour, Luc.
Et André Vincent. Bonjour, André.
Bonjour, Luc.
Moi, on me dit que vous êtes utilisateur du braille depuis 50 ans.
Oui.
Bon, alors, vous avez un an d'avance sur moi. Et vous étiez directeur du service québécois du livre adapté. Vous êtes également membre du.
Je l'étais.
Oui, c'est ça, vous étiez. Et vous êtes également. Vous faites partie du conseil d'administration ici, à Vusez-Voix.
Oui, c'est bien ça. Je suis vice-président du conseil d'administration.
J'ai envie de. Bon, je sais qu'on a tous lu l'article. Est-ce que finalement. Parce que c'est pas nouveau, là. On dirait que c'est une question qui revient de temps en temps. Le déclin du braille et tout, malgré que là, il y a des chiffres qui tendent à montrer que c'est de plus en plus vrai. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris dans ce texte-là ou, somme toute, c'est du déjà lu, déjà entendu? Christine?
Oui, moi, je dirais que c'est du déjà lu. Effectivement, je pense qu'on y va avec des vagues. Au bout d'une couple d'années, là, on se dit peut-être une autre offensive envers les nouvelles technologies pourrait être utile. Mais je pense pas que ce soit la meilleure manière de cadrer le débat.
André?
Moi, également, je n'ai pas été surpris parce que, encore une fois, la technologie va remplacer le braille. J'entends ça, moi, depuis des décennies. À l'époque, c'était la cassette qui devait remplacer le braille. Un peu plus tard, c'était le numérique. Et là, de plus en plus, on parle des technologies qui remplacent le braille. Donc, je n'ai pas été surpris. Bien que moi, on va y revenir, je prétends plutôt que la technologie va venir compléter le braille pour les utilisateurs de braille.
David, c'est intéressant parce qu'à la fois, bon, vous avez vécu une perte de vision et en même temps, vous travaillez pour un organisme qui veut, si on veut, représenter toute personne handicapée visuelle, indépendamment de ses allégeances. Alors, vous vous positionnez où dans cette question-là?
Donc, moi, je vais être obligé de répondre avec la réponse de ça dépend. C'est vraiment quasiment du cas par cas.
Oui,
Euh,
c'est ça.
parce qu'il y a des gens qui vont perdre la vue plus tard dans la vie et qui vont
Non, mais si
avoir.
je reviens à l'article, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris? Est-ce que quand vous avez lu ça, est-ce que vous vous êtes dit, ah, oh, ça va nous permettre de relancer et d'en parler, comme administrateur, ou vous vous êtes dit, bon, pas encore, il me semble qu'on aurait pu parler d'autre chose?
Oui, je pense que c'est comme Christine disait, c'est déjà lu, mais je pense que à toutes les fois, ça nous donne l'occasion encore de promouvoir le braille et de rappeler les gens que c'est très important.
Ah, je trouve ça intéressant. Tiens, j'ai envie de rebondir du côté de Christine parce que Christine, vous m'avez déjà dit, moi, je ne ressens pas le besoin d'apprendre le braille, bien qu'il y ait des chances que là, vous voyez pas grand-chose. Vous êtes plus capable de lire, je pense. Êtes-vous capable encore de lire si la lettre est grosse, grosse, grosse?
Ben, en fait, c'est vrai que si je comprends en agrandi, je vais me fatiguer plus rapidement. Donc, c'est certain qu'avec les années, j'ai eu recours de plus en plus à l'audio, puis en même temps, avec les années, le volume de lecture s'est augmenté aussi. Donc, mais c'est vrai que j'ai déjà dit, ben, honnêtement, je ressens pas le besoin d'apprendre le braille au quotidien. Pourquoi? À moins qu'on me place dans un ascenseur puis que je le regrette. Mais pourquoi? Parce que pour moi, c'est un souci d'efficacité. Donc, c'est extrêmement important pour moi d'être capable de lire ou de faire lire à une vitesse très, très efficace au quotidien. Et pour ça, pour atteindre cet objectif-là, eh bien, pour moi, ça passe par l'audio. Ça ne peut peut pas passer par le braille.
Oui, ben je sais le braille, et ici, il y a un fin finot dans le building qui a arraché les étiquettes, alors il n'y a aucune façon dans l'ascenseur, ni en relief, ni en braille, de savoir où on est rendu. Alors, que voulez-vous, c'est une petite réalité de la vie. Bon, à la question, peut-on trouver un emploi sans savoir le braille? Évidemment, on a deux exemples ici, mais... dans la personne de David et Christine. Mais vous étiez déjà, vous avez vu, vous avez appris à lire et à écrire, autant avec les chiffres arabes que les lettres cursives. Donc, j'imagine que ça change quelque chose. Si on prend un petit bout de chou qui est en première année et qui ne peut pas fonctionner avec l'imprimé, est-ce qu'on s'entend pour dire que c'est impossible de se trouver un emploi plus tard comme personne non-voyante sans connaître son braille, ou on s'entend pas?
Ben, André? Je peux y aller. Ouais. Moi, je pense qu'il y a quand même des recherches américaines, notamment, qui ont démontré que pour une personne qui n'est pas alphabétisée au braille dès son jeune âge, et quand je parle d'alphabétiser, c'est qu'on a tous besoin, on en conviendra, pour fonctionner dans la vie, d'être alphabétisé, ou du moins si on veut accéder à des emplois plus intéressants, plus rémunérés, poursuivre des études. Et là, le braille devient cet outil d'alphabétisation pour un jeune qui ne peut pas avoir de substitut. Alors, la situation est bien différente, bien sûr, pour les personnes qui perdent la vue à un âge plus avancé et qui sont déjà alphabétisées dans le mode habituel de tous les voyants, quoi. Alors, je pense que c'est là qu'on doit faire porter le débat, et c'est là qu'il est malheureux de constater qu'on n'en enseigne plus suffisamment le braille aux plus jeunes. J'ajouterais quand même qu'il y a un peu un mythe dans le fait de ne pas pouvoir apprendre un braille très fonctionnel quand on est un peu plus avancé en âge. Moi, j'ai eu mes premières leçons de braille en début vingtaine, quand j'étais à l'université, et je fonctionne depuis ce moment-là très efficacement avec le braille. Je ne pourrais pas m'en passer, quoi.
Oui, oui. L'utilisation des nouvelles technologies se fait-elle au détriment du braille? C'est un volet de notre question du jour aujourd'hui. Vous pouvez nous joindre via les réseaux sociaux, MoClic, Canal M. Vous nous dites la place que peut prendre ou que pourrait ou prend le braille dans votre vie versus les nouvelles technologies. Peut-être que vous connaissez des gens. Si vous-même, vous ne savez pas le braille, peut-être que vous connaissez des gens et vous avez envie de, pas nécessairement parler en leur nom, mais de nous raconter un peu ce que vous percevez de leur quotidien avec ou sans le braille. Est-ce que, David et Christine, vous, disons, avez comme perception qu'un enfant qui n'apprend pas le braille, non seulement est désavantagé dans la vie, là, mais part avec deux prises et demie contre lui?
Moi, je dirais que je m'interroge sur la statistique par rapport au déclin du braille chez les plus jeunes. Est-ce qu'on vous dit, quand on fait un sondage au sens large, les gens avec une déficience visuelle au Canada utilisent de moins en moins le braille, et donc on en déduit que les enfants ne l'apprennent moins, ou bien est-ce que le fait que le vieillissement de la population entraîne nécessairement, donc entre autres, un accroissement de la DMLE, et ce qui fait en sorte que, bon, les personnes âgées, on ne s'attendra pas à ce qu'elles apprennent le braille. Est-ce que c'est vraiment la réalité? Moi, en tout cas, selon mon expérience, j'aimerais entendre une réponse à ça, parce que ce n'est pas vraiment ce que j'ai vu, moi, jusqu'à maintenant, que les enfants l'apprennent moins, surtout quand ils ont une cécité en très bas âge.
Oui.
André?
Oui?
Je ne sais pas si c'est à nous que vous disiez oui ou si vous vouliez ajouter quelque chose, parce que sinon...
Selon votre expérience, peut-être, oui?
Oui, je pense que les plus jeunes enfants... Écoutez, il y avait du bruit un peu à la maison.
Oui.
Je pense que j'ai manqué la fin de la conversation.
En fait, c'est que Christine, on mettait en doute un peu le déclin, la baisse, mais j'ai envie, justement... Christine, un de ces doutes-là est peut-être soulevé parce que vous avez travaillé à une série sur l'éducation. Vous vous êtes promené dans quelques écoles et ça a été une des choses abordées.
Oui, effectivement. En fait, on a vu que les plus jeunes, nécessairement, apprenaient le braille. Puis même, ça m'a soulevé, moi, une interrogation à l'inverse, chose qu'on ne soulève pas très souvent. En les rendant, entre guillemets, très, très capables d'utiliser le braille, en fait, en leur donnant cet outil-là de plus, qui en soi n'est pas mauvais, là, c'est pas ce que j'essaie de dire, mais selon moi, on les rend aussi dépendants jusqu'à un certain point. Et je vois une préoccupation, surtout quand ils vont arriver soit aux études postsecondaires avec les délais de transcription en braille et surtout sur le marché du travail.
OK, on revient là-dessus.
Moi, je n'imagine pas du tout sur le marché du travail à utiliser seulement le braille. Ce serait complètement impraticable.
On fait une petite pause musicale. On revient là-dessus parce que c'est un concept assez peu fréquemment évoqué, à savoir on peut devenir dépendant du braille. Petite pause. I wish I was sober before you came over. But you know that this is making me nervous. I'm drunk in a cafe, you're drinking a latte. And I haven't slept a wink waiting for this date with you. Do you feel it too? You get me a cookie, there's crumbs all up on me, and there's lipstick on the tip of my nose. You're staring at me like I'm under the spotlight. The sweat is dripping down to my toes. Enjoy the view on this date with you.
This coffee shop, if you just hold my hand, we'll spin round the tables till we both fall down. And I just wanna dance under the lights of this coffee shop. If you just hold my hand, we'll spin round the tables till we both fall down and stop. I wish this night would never end. Oh, oh.
La Canadienne Barbara Leeka avec Coffee Shop sur Canal M. On se questionne à savoir si les nouvelles technologies sont, disons, travaillent au détriment du braille. Et avec Christine Rousseau, David Demers et André Vincent, deux d'entre eux n'ont pas nécessairement utilisé le braille pour leur cheminement de vie. André et moi ne pourrions nous en passer. Christine, tu commençais à parler de dépendance du braille. Quelle absurdité!
J'ai inversé la question, en fait. Mais c'est sûr qu'il faut peut-être nuancer avec le braille électronique.
Qu'est-ce que vous entendez par...
versus le braille papier.
Mais expliquez,
oui. Ce que j'entends par là, c'est que... Oui, c'est que le braille papier, au sens traditionnel du terme, là, avec les délais de transcription et les coûts rattachés à cette transcription-là, moi, j'ai peur que si on dépend majoritairement du braille, bien qu'à long terme, ça nous nuise. Que ce soit au niveau des études postsecondaires et en plus, c'est encore plus vrai sur le marché du travail.
Parlez-moi, Christine, de l'exemple de la jeune fille qui était dans votre documentaire.
Ben en fait, j'aime peut-être un peu moins donner des exemples très
non,
concrets
mais
comme ça.
Non, mais on ne dira pas son nom.
Donc, un étudiant qui a une basse vision, et puis il y en a beaucoup, en fait, où on se dit, bon, l'étudiant présentement a une basse vision, et le diagnostic est quand même suffisamment clair pour qu'on se dise probablement que l'étudiant va perdre la vision éventuellement, donc vaut mieux commencer à apprendre le braille, et donc on va passer à un mode plutôt en braille plutôt qu'en audio. Il y a des avantages à ça, je ne nierai jamais ces avantages-là. Sauf que, selon moi, on rend l'étudiant dépendant d'un mode qui, à long terme, ne sera pas suffisamment efficace sur le marché du travail.
Moi, je me souviens d'avoir été à l'école spécialisée à l'époque, Nazareth, et effectivement, lorsque je suis allé au cégep, j'étais aucunement préparé à travailler dans un monde de voyants parce que, justement, tout était accessible, adapté, les livres étaient en braille, c'était magnifique. André, vous alliez dire?
Oui, ben moi, j'aimerais réagir à ça.
Allez-y.
Je suis pas pleinement d'accord avec cette notion de dépendance parce que, je l'ai dit plus tôt, pour un jeune qui n'a connu que ça, le braille, ça devient son outil principal de lecture et d'écriture. Tout comme, je le pense, l'écrit, hein, l'imprimé et non pas la synthèse vocale reste toujours l'outil principal de communication pour une personne qui voit. Et au contraire de ce que disait un petit peu l'article, les nouvelles technologies viennent donner un nouvel élan au braille puisque dorénavant, avec un afficheur braille, un étudiant et un futur professionnel, ben tout l'information dont il a besoin, il peut y accéder en braille au moyen d'un afficheur braille, justement. Alors, c'est pour ça que je trouve qu'il est indispensable de continuer à l'enseigner et à le promouvoir, puisque grâce à ces technologies-là, le goût s'y viendrait qu'on ne les avait pas, peut-être à l'époque où on a fait certaines études.
Ouais.
Et pourtant, on utilisait le braille, on en avait besoin, mais grâce à ça, maintenant, on peut accéder à beaucoup plus d'informations en braille, que ce soit aux bases de données, à des livres qui sont en e-pub, en quoi que ce soit. Donc, on a beaucoup plus d'informations qu'avant. C'est vrai que quand on attendait après la copie braille papier, là, on pouvait parler d'une dépendance des autres. Mais maintenant, cette dépendance-là, elle est disparue et je pense qu'il faut... il faut le répéter pour encourager ceux qui produisent du braille à continuer à en produire.
David Demers, j'ai envie de parler au gestionnaire là, INCA Québec, parce que je me demandais si INCA pourrait peut-être pas, ou peut-être que vous le faites déjà, jouer un rôle, parce qu'on parle du déclin, justement. Il y en a un déclin, là. Ça, c'est on peut pas éviter cette notion-là. Et une des raisons... André le soulignait, il y a de moins en moins d'investissements. J'ai fait quelques téléphones. On me dit que dans chaque centre de réadaptation, il y a quelqu'un qui est spécialisé pour apprendre le braille, pour enseigner le braille, mais que bon, c'est aux commissions scolaires aux 17 ans et moins à faire le travail et tout et tout. Est-ce que il n'y aurait pas lieu, peut-être, d'augmenter un peu l'accès au braille par je sais pas, des enseignants régionaux ou... C'est quelque chose qui a été pensé ou discuté?
Ben, je crois que oui, il faut répondre aux besoins des gens qui ont besoin d'apprendre le braille. Nous, à INCA, on voit ça comme un outil. Donc, il y a des gens qui vont avoir besoin de cet outil-là et d'autres non. Et pour ceux qui en ont besoin, c'est essentiel et c'est aussi essentiel qu'ils puissent l'apprendre. Donc oui, il faut offrir ces outils-là à tous les gens qui en ont besoin.
André, vous mentionniez, bon, à 20 ans, j'ai appris le braille. Moi, on me dit que du côté de l'Institut Nazareth et Louis Braille, en tout cas, dépendamment de l'âge, on va faire passer des tests aux futurs utilisateurs de braille pour voir sa capacité d'apprendre, parce que, bon, le cerveau réagit moins bien, la corne, les doigts, si on avance en âge. Est-ce qu'il n'y a pas risque de mettre des limites là où la personne, elle, voudrait peut-être aller au-delà de ses limites quand le secteur public commence à mettre des tests et des barèmes?
Absolument. Un mythe qui est véhiculé, malheureusement, depuis quelques décennies. Et peut-être que je me ferai pas d'amis en disant ça, mais il est surtout véhiculé par des personnes voyantes qui n'utilisent pas le braille. Ouais. C'est ce mythe qui dit que le braille, c'est difficile à apprendre. Tout apprentissage est exigeant, et le braille, c'en est un, donc il a ses exigences. Mais c'est pas plus difficile de l'apprendre que n'importe quel autre système, surtout le braille lui-même. Là où il y a des nuances à apporter, bien sûr, c'est que plus on vieillit, plus on a des chances d'avoir un toucher qui est moins difficile à stimuler. Mais j'ai connu, moi, des personnes qui ont appris le braille et même le braille abrégé à l'âge de 60 et 70 ans, puis qui l'ont utilisé régulièrement. Donc, il faut, je pense... se défaire de ce mythe-là, justement. Et vous avez raison de soulever la question. Je pense qu'il faut laisser à la personne ce choix-là et non pas lui imposer le choix par des soi-disant examens.
Oui, peut-être que, bon, elle n'utilisera pas le braille pour lire Tolstoï, mais moi, je sais que c'est beaucoup plus rapide dans ma discothèque qu'on contient peut-être un millier de CD, de m'y retrouver. Tout est en ordre alphabétique. S'il fallait que je mette un petit scanner avec des codes-barres, puis là, ce serait beaucoup plus long. Là, je sors, oups, première lettre, bing-bang, l'autre tablette. Il y a des avantages pour des usages très quotidiens, très faciles et utiles.
Entre autres, je dirais, Luc, c'est une des raisons pourquoi je songe souvent à prendre le braille pour utiliser l'ascenseur, pour pouvoir, dans les hôtels, c'est les numéros de chambre.
C'est vrai, vous êtes rendu jet-set maintenant, vous travaillez pour... Christine, oui?
Oui, mais justement, par rapport à la mise en accessibilité, c'est sûr que j'inverse souvent des questions et tout, puis bon, je veux pas nier les avantages que peuvent donner le braille. Au contraire, c'est vrai que si la personne veut choisir d'apprendre le braille, elle doit tout à fait avoir cette option-là. Mais je m'interroge quand on pense à la mise en accessibilité au niveau architectural. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que maintenant, en 2018, avec le niveau d'avancement de la technologie qu'on a, est-ce qu'on se réfère encore à des modèles beaucoup plus anciens? On va parler seulement d'agrandi, de contraste et de braille. Alors qu'on ne prend pas du tout en considération l'état de la technologie. Mmh. Moi, je trouve ça dommage parce qu'à ce moment-là, on laisse de côté une grande majorité de personnes qui ne connaissent pas nécessairement le braille et qui, parfois, ne peuvent pas nécessairement non plus l'apprendre. C'est pas nécessairement juste une question de volonté.
Et c'est là où des articles comme celui rendu public le 26 avril dernier, je pense, nuit à l'avancement, parce que on est tous d'accord que ce ne doit pas être l'un ou l'autre, mais ce genre de texte-là a tendance justement à mettre en comparaison et en opposition deux modes qui, somme toute, il y a assez d'affaires auxquelles on n'a pas accès, au moins laissez-nous ce qui est possible que l'on fasse. Ouais. J'ai plus de temps, malheureusement, David Demers. Allez voir la directrice générale de Visez-Voix, elle vous réquisitionne. André, on a failli se voir, mais je suis bien content qu'on ait pu se parler. Et Christine, continuez vos cours de Common Law à Sherbrooke. Nous, on continue après la pause avec Jean-Sébastien à la technique.